Bonsoir et bon début de semaine à tous. Le gouvernement congolais appelle à des sanctions claires contre le Rwanda après la publication la semaine passée du dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies pour le ministère des Affaires étrangères. Non seulement ce rapport confirme le drame sécuritaire et humanitaire vécu dans l'est de la RDC, mais également valide les positions du gouvernement congolais sur l'implication directe du Rwanda dans la déstabilisation de la région. De la partie est de la RDC, indique le communiqué. En ce qui concerne les allégations soulevées dans le rapport concernant certaines pratiques des FARDC, la RDC s'engage, selon le communiqué, à collaborer avec les Nations Unies pour identifier et corriger toute lacune éventuelle dans le souci de transparence. Que pensez-vous de la réaction du gouvernement congolais sur le dernier rapport du groupe d'experts des Nations Unies? Pour en parler, je reçois dans cette émission trois invités. Joseph Kongolo, qui est analyste politique, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Avec moi dans ce studio, professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Professeur Dadi Salé, bonsoir et meilleurs voeux.
Merci, bonsoir et meilleurs voeux.
Frédéric Amali est également avec nous dans ce débat. Il est chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi, expert en questions de sécurité, défense et maintien de paix de l'Institut Thalès d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Frédéric Amali, bonsoir et meilleurs voeux.
Bonsoir Madame Kelly, meilleurs voeux. Bonsoir au prof Dadi Salé et aux auditeurs de Radio Capi.
Auditrices, auditeurs de Radio Capi, vous êtes déjà très très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Jean Tokoko depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Au regard de ce dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU qui atteste l'implication du Rwanda dans la déstabilisation de la sous-région, il est temps que la RDC prenne toutes les dispositions qui s'imposent afin de ramener la paix tant recherchée par tous les moyens possibles. Nous devons nous assumer en tant que peuple et en tant que peuple en optant soit pour la guerre contre ces rebelles, soit la négociation avec eux pour ramener une fois pour toutes la paix et la stabilité, car la diplomatie a ouvertement démontré ses limites. À Goma, on alors que vous nous suivez sous la 95.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, le compte X et la chaîne YouTube de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiocapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, le gouvernement congolais exige des sanctions claires et des mesures immédiates contre le Rwanda, démontré comme auteur des violations du droit international et d'ingérence systématique dans les récents rapports du groupe d'experts des Nations Unies. Dans un communiqué de presse du 11 janvier 2025, le ministère des Affaires étrangères invite les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à prendre leurs responsabilités face à ces révélations accablantes. D'autres détails avec vous, Billy Yvon Lutumba.
Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères interpelle les partenaires, les alliés de la RDC, l'Union africaine ainsi que l'ONU, qu'il est impératif d'aller au-delà des simples déclarations et condamnations. Pour le ministère, laisser de tels actes impunis continuerait de porter gravement atteinte à la crédibilité des institutions internationales et au fondement même de l'ordre international basé sur le droit. Face à la persistance des violences graves telles que documentées dans le rapport, le ministère congolais des Affaires étrangères insiste que le moment est venu pour que tous les partenaires de la RDC montrent une détermination sans faille à l'encontre du Rwanda. Il rappelle que la restauration de la justice et la garantie d'une paix durable dans la région n'est pas seulement une obligation morale, mais un impératif pour la stabilité et la sécurité internationale. Ainsi donc, l'inaction face à des preuves aussi accablantes menacerait l'ensemble du système multilatéral et son rôle dans la préservation de la paix mondiale, poursuit-il. Par ailleurs, le gouvernement de la République démocratique du Congo se fait le devoir d'examiner scrupuleusement les allégations soulevées dans le rapport concernant certaines pratiques des FARDC pour identifier et corriger toute lacune éventuelle dans un souci de transparence, d'amélioration continue pour le respect des normes internationales.
Merci Billy Yvon Lutumba pour ce résumé. Professeur Dadi Salé, je rappelle que vous êtes docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Un nouveau rapport du groupe d'experts de l'ONU a été publié la semaine passée. Dans ce rapport, ces experts révèlent l'implication de l'armée rwandaise aux côtés de la rébellion du M23 dans la déstabilisation et la conquête des territoires et localités dans la province du Nord Kivu. Et d'après ces experts onusiens, la conquête par les rebelles des nouveaux territoires n'aurait pas pu se faire sans l'aide de l'armée rwandaise qui a dirigé des opérations ciblées et disposé d'armes de haute technologie. Un nouveau rapport où le Rwanda est impliqué, ce n'est pas le premier rapport. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez parcouru ce rapport. Comment vous l'analysez?
Un rapport de plus. Je résume ça comme ça. Parce que nous avons déjà les rapports mapping qui restent dans des tiroirs aux Nations Unies. Je pense que Dr Mukwege en parle et tout le monde à longueur de journée. Nous avons déjà des rapports des Nations Unies dénonçant l'implication du Rwanda par rapport au pillage et par rapport aux militaires, même de photos, comment on appelle ça, satellites, etc. Je pense que ce rapport vient montrer quoi de plus? Rien de plus, excusez-moi un peu le mot, rien de plus à part corroborer ce que déjà les Nations Unies ont déjà dit, ce que la société civile congolaise a déjà dit, ce que le gouvernement a déjà dit, mais dit avec mollesse, je m'excuse, et ce que effectivement tous les experts, n'est-ce pas, même l'ANR, a déjà dit. Ce qui fait que ce qui manque, c'est à quoi servent les rapports si les rapports ne peuvent pas aboutir à des décisions un peu courageuses. Je pense que les Nations Unies n'arrivent pas à prendre des décisions courageuses face à la situation. Ce qui semblerait confirmer, malheureusement, parce que c'est très grave, ce qui semblerait confirmer la thèse d'une complicité au niveau international contre la République démocratique du Congo. On se souviendra que au niveau du Parlement européen, plusieurs, effectivement, députés, ça va, européens, l'ont déjà signalé à plusieurs reprises et démontré même le soutien direct de l'Union européenne, n'est-ce pas, au Rwanda, et qui aboutirait à ces massacres et ces soutiens, et même militaires d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire financés. Et les États-Unis ou bien les multinationaux, on n'en parle pas, parce que déjà Apple est déjà pointé du doigt par la République démocratique du Congo. Alors, je pense que nous vivons un peu, pour être direct, une politique d'Autriche, ça va, et au niveau international, régional et surtout local. C'est là où ça me fait mal. Parce qu'avec notre philosophie Kujitegemea, Tomi Lukela, Tuso Sangemo Situji Kebela, c'est la République démocratique du Congo le premier responsable. Il ne s'agit pas des Nations Unies les premiers responsables de cette situation. Donc, je comprends bien notre ministre des Affaires étrangères
qui appelle à des sanctions claires contre le Rwanda.
C'est pas possible.
Plusieurs fois, la RDC a demandé que le Rwanda
je
soit sanctionné, malheureusement, sans suite.
Mais bien sûr, je comprends la position. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Et le ministre des Affaires étrangères, diplomatie oblige, on peut le faire. Mais normalement, on ne doit pas continuer à pleurnicher comme de petits garçons. La République démocratique du Congo n'a jamais déclenché l'article 86 de la Constitution par rapport à cet État. C'est-à-dire faire la guerre, parce que la République démocratique du Congo est en guerre. Et c'est déjà constitutionnel. Chaque nation, par rapport à tout ce qu'on a comme charte des Nations Unies, doit d'abord se défendre. Vous n'allez pas demander à Israël de continuer à pleurnicher, ni à l'Ukraine.
La guerre, est-ce que ce n'est pas le dernier recours? Ne faut-il pas continuer avec la diplomatie Luanda?
Je l'ai précisé depuis très longtemps. Mauvaise interprétation par rapport effectivement à un niveau du néocolonialisme. Vous me comprenez? Ben sinon, pourquoi ne pas faire la diplomatie avec la Russie comme dernier ressort? Pourquoi ne pas faire la diplomatie avec Gaza? Jusqu'éternellement, c'est pas possible. Seuls les Congolais ne comprennent rien et n'importe qui nous explique n'importe quoi. Il s'agit de ceci, madame. C'est que la diplomatie est un fait des rapports de force. Et quand on parle des rapports de force, il faut se constituer des rapports de force militaires, économiques, géostratégiques et culturels. C'est-à-dire effectivement qu'il n'y a pas de contradiction. On peut bien faire la démocratie qui est une des armes, mais il n'y a aucune diplomatie au monde qui peut interdire la guerre. La guerre, même dans la Bible, elle est autorisée. Je ne sais pas qui trompe la République démocratique du Congo et les leaders congolais qui ne veulent pas comprendre qu'effectivement, que seul le rapport de force vous fait négocier. Vous ne pouvez pas négocier en position de faiblesse et penser que vous aurez gain de cause parce que ça n'existe nulle part. Il ne s'agit pas d'avoir raison. La diplomatie, c'est une notion hautement stratégique où c'est le plus fort, les gens qui peuvent influencer, savoir qui ont raison. Ce n'est pas celui qui a raison dans le sens des faits, n'est-ce pas? Non, non, non. Il n'y a aucune diplomatie au monde depuis les temps d'ailleurs de nos ancêtres où on a pensé que tu as raison, c'est ma maison, etc. Non, non, non. Quand la conquête, c'est comme ça. On arrive à conquérir, vous serez en train de discuter, mais votre maison sera déjà prise. C'est ça la réalité. C'est là où je vous parle de la diplomatie naïve. Ça va. La diplomatie naïve qui ne comprend pas c'est quoi la diplomatie. Vous savez, quand on a un leadership un peu faible, globalement, ça va. Il ne s'agit pas seulement des politiciens. Il s'agit de tout le monde. Les églises, tout ce qui s'appelle leader. On devait se battre. Ça n'exclut pas. On est en train de se battre, ça va. Et on est en train de parler. Il n'y a pas d'exclusion, mais depuis très longtemps, j'entends des spécialistes en parler et les gouvernements en parler. J'ai dit, ok, peut-être que j'ai mal appris mes leçons, ça va, mais ce n'est pas comme ça. On doit se battre, vous ne vous battez pas, on vous écrase. Vous ne serez même pas éligible à une négociation sérieuse. Ce qui fait que vous comprenez que Luanda, d'ailleurs, vous le savez mieux que moi, ben le Rwanda, qu'est-ce que le Rwanda a encore à faire avec Luanda? Il vient de le dire. Ça va. Qu'est-ce que le Rwanda a à faire avec Nairobi? Le Rwanda n'a rien à faire avec aucun accord qui se passe. Il viole des cessez-le-feu. Mais vous le savez, madame. Les Nations Unies le savent. Tout le monde le sait. Et il continue à violer et à violenter ce que vous appelez cessez-le-feu. Donc je pense effectivement que la naïveté diplomatique du leadership congolais, je suis désolé, je ne dis pas que les leaders sont naïfs, je n'injurie personne. Je parle d'une théorie du leadership naïf. Donc on ferme les yeux et on veut un peu se donner raison sur certains aspects. Non, si la République démocratique du Congo ne se prend pas en charge, il n'y a personne au monde qui va prendre en charge la République démocratique du Congo.
Frédéric Amani, vous êtes chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Vous êtes également expert en questions de sécurité, défense et maintien de paix de l'Institut Thalès d'Afrique basé à Dakar, au Sénégal. Comment vous avez analysé ou vous analysez ce nouveau rapport du groupe d'experts de l'ONU qui confirme la présence du Rwanda ou de l'armée rwandaise aux côtés du M23.
Bien, merci beaucoup de la parole accordée, surtout de m'avoir associé à ces débats démocratiques et républicains aussi à la fois. Alors, le rapport de l'ONU, moi je le considère comme du déjà entendu, dans la mesure où, excusez-moi, nous saluons le travail qui est en train d'être fait et par les partenaires de la RDC, et par la RDC elle-même dans le cadre du rétablissement de la paix ou de la consolidation des efforts de la paix à l'Est et sur toute l'étendue du pays. Mais moi, je pense que ce rapport est venu dire ce qui a déjà été dit par l'ONU elle-même et par d'autres organisations œuvrant dans la région et même par le gouvernement congolais. Mais est-ce que faudrait-il se contenter du rapport qui vient de l'ONU qui montre clairement le soutien du Rwanda au M23. Et je persiste, madame, je signe et je persiste en tant que, excusez, avec beaucoup d'humilité, chercheur des questions de sécurité. Il n'y a pas seulement le Rwanda dans ses soutiens. L'Ouganda fait partie, bien que je pèse bien mes mots, quand bien même le gouvernement congolais, d'une manière ou d'une autre, ne veut pas le dire peut-être à haute voix, mais l'Ouganda fait partie, n'est-ce pas, du soutien du M23. Alors, qu'est-ce qu'il faut par rapport à ces rapports? Moi, je pense que je vais me référer à Raymond Aron, qui parle des diplomates et des soldats, des entités ou des éléments qui interviennent, n'est-ce pas, dans les cadres des relations internationales. Je concède le point de vue du professeur Dadi Salé, mais moi je pense que la guerre c'est une bonne chose, mais elle doit être bien préparée et il y a des préalables pour la RDC pour déclencher la guerre vis-à-vis du Rwanda. Sinon on risque, excusez-moi, je pèse bien mes mots, on risque d'être dans un populisme de souhaiter la guerre aujourd'hui et dont on ne sait pas comment on va la terminer, sans mesurer aussi les conséquences collatérales de cette guerre. Moi, je pense aujourd'hui, avec ces rapports, ça donne davantage raison au gouvernement congolais, c'est-à-dire qui a toujours crié haut et fort le soutien du Rwanda et de l'Ouganda vis-à-vis du M23 qui déstabilise la région et la partie orientale. Il revient alors au gouvernement congolais au travers les instances dirigeantes. J'ai fait ici allusion au ministère des Affaires étrangères, j'ai fait allusion ici à la présidence, à la primature et au Parlement, de mettre en place alors une diplomatie efficace pour convaincre ses partenaires et ses alliés à les suivre. Vous savez, en relation internationale, l'État n'est pas seulement ce qu'il dit de lui-même. L'État et tout ce qui corrobore sa puissance, son influence, c'est aussi ce que les autres disent de vous, ce que les autres pensent de vous. Or, je pense, ces institutions précitées peuvent amener les alliés de la RDC, ou si vous voulez bien, la communauté internationale, à avoir un autre regard, non seulement par rapport à la RDC, mais par rapport aussi à ce qui se passe à l'Est. Pourquoi autant de rapports, non seulement de l'ONU ou des autres organisations œuvrant dans la région, montrent clairement la gravité humanitaire, la gravité sécuritaire dans cette partie, mais c'est à peine qu'on va entendre la voix de l'Union européenne, c'est à peine qu'on va entendre la voix des États-Unis ou de notre pays partenaire à la RDC, hausser les tons vis-à-vis du Rwanda ou vis-à-vis du M23 pour dire « Oh, nous souhaitons le cessez-le-feu ». Non, c'est par rapport à une diplomatie efficace que ces instances, ministère des Affaires étrangères, présidence de la République, Parlement, primature, vont mener pour inviter ses partenaires à les suivre. Voilà pourquoi il est temps d'enclencher ce que nous appelons la théorie de la réorganisation interne. Cette théorie va permettre à ce que la RDC aide sur la scène internationale, parce qu'on a parlé des rapports de force. Alors, les armes venant de l'intérieur vont permettre à ce que la RDC sur la scène internationale ait suffisamment des rapports de force qui influencent les autres partenaires à suivre son point de vue, notamment les sanctions vis-à-vis du Rwanda, vis-à-vis de l'Ouganda, vis-à-vis de la rébellion, pour que la paix et la sécurité reviennent à l'Est, parce que les conseils de sécurité, comme l'organe chargé du maintien de la paix, chapitre 7, montre clairement que cette instance a le pouvoir des sanctions et des condamner lorsque l'agression est bel et bien montrée et que le cas du Rwanda ou de l'Ouganda est, n'est-ce pas, clair par rapport à cette situation à l'Est de la RDC.
Mais la grande question que les Congolais se posent, pourquoi ces deux pays ne sont pas sanctionnés alors que c'est prouvé noir sur blanc dans plusieurs rapports que le Rwanda et l'Ouganda soutiennent les groupes armés dans la partie est de la RDC?
Ces pays ne sont pas sanctionnés, madame. C'est parce que, je l'ai dit, l'ONU a fait son travail d'enquête. Maintenant, il revient à la RDC de prendre le bras le corps ces dossiers, comme nous avons vu le point de presse de madame ministre des Affaires étrangères dire clairement. Alors, on ne doit pas se limiter seulement, excusez-moi, à ces déclarations ou à ces points de presse. Il faudrait maintenant que la diplomatie s'active sur ces points-là, inviter les partenaires de la RDC, inviter la communauté internationale à aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, là, c'est à ce niveau que se joue la diplomatie de la RDC, de convaincre les partenaires, de convaincre la communauté internationale de la gravité humanitaire, de la gravité sécuritaire, des soutiens du Rwanda et de l'Ouganda pour qu'ils soient sanctionnés. Mais si on doit se contenter parce que l'ONU ou l'Union européenne ou une autre organisation a publié le rapport qui est déjà connu, eh bien, nous allons être naïfs pour reprendre l'expression de prof Salé. Mais moi, je pense que la diplomatie à ce niveau doit s'activer pour amener la communauté internationale et surtout, voilà pourquoi il est temps ici de parler de cette diplomatie de contournement. C'est quoi cette diplomatie, Madame Kelly? C'est cette diplomatie où la RDC, au travers ces institutions ou ces instances dirigeantes, d'aller vers ce qu'on appelle l'ami de mon ennemi et mon allié. Tout à l'heure, on a parlé des processus de Luanda. Il y a des États qui sont en bonne relation avec le Rwanda, qui ne le sont pas avec la RDC. La RDC, dans sa diplomatie, doit intégrer ces États ou ces organisations pour que par ces organisations ou ces États, eh ben, ces États fassent pression au Rwanda et à l'Ouganda, mais aussi de l'autre côté, la RDC fasse pression à la communauté internationale pour que les sanctions. C'est le cas de l'Union européenne ou de la communauté internationale vis-à-vis de la Russie. Et c'est vrai, nous décrions, on l'a toujours dit, nous décrions cette politique de deux poids, deux mesures face à l'Afrique ou face à l'Est. Il y a un silence, c'est à peine qu'on entend la voix, mais face à l'Ukraine, c'est toute la communauté internationale qui se mobilise et avec les soutiens logistiques et avec des déclarations. Mais pourquoi pas cette communauté internationale ne s'intéresse pas à la crise qui se passe à l'Est, qui est plus dangereuse que même la crise en Ukraine et, n'est-ce pas, dans la bande de Gaza. Donc, merci. Voilà les éléments que nous pensons qui peuvent être mis en exergue par la RDC pour que le Rwanda et l'Ouganda soient sanctionnés, mais pour que aussi la voix congolaise soit davantage entendue dans les instances internationales et que la paix et la sécurité reviennent pour que le développement soit au rendez-vous.
Robert Baobé, qui nous suit depuis Bukavu, sud Kivu, il pense que si les Nations Unies veulent aider la RDC à venir à bout de la crise dans la partie est de la RDC, qu'elle ne se limite pas au rapport qu'elle sanctionne l'Ouganda et le Rwanda, les semeurs de l'insécurité en RDC, je sais bien qu'elles en sont capables. Merci à Monsieur Baloufou et Baloukou Biamungu qui nous suit depuis Goma au nord Kivu. Merci à Elias Lawamo qui nous suit depuis Djougou dans la province d'Elitouri, Arthur Mukonkole depuis la province de Lomami dans la province la province de Lomami dans la ville de Kabinda, Gabriel Banika, depuis Tenke au Lualaba. Joseph Kongolo, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints dans ce studio de Radio Kapi.
Bonsoir madame, je voudrais en profiter, je m'excuse d'abord aux auditeurs pour ce petit retard. Je voudrais tout de suite saluer mon co-débatteur et tous les deux co-débatteurs ainsi que les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Merci Joseph Kongolo, meilleur vœu.
Merci.
Alors, vous avez lu le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU sur l'implication directe du Rwanda dans la déstabilisation ou aux côtés du M23 dans la partie est de la RDC. Le gouvernement congolais a réagi à ce rapport et demande des sanctions directes contre des sanctions claires, directes contre le Rwanda. Vous venez d'arriver, je ne sais pas si vous avez suivi le professeur Dadi Salé, lui qui estime que c'est vrai qu'à côté de la négociation, il faut déclarer la guerre, il faut aller en guerre, chose que ne soutient pas Frédéric Amani, que vous avez suivi tout à l'heure. Vous, quel est votre point de vue par rapport à cette situation?
D'abord, je voudrais dire que l'ONU aujourd'hui, qui est l'instrument de régulation de paix mondiale, est en décadence. Nous sommes à la fin d'un ordre mondial. C'est lui instauré par la fin de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, 1948. Aujourd'hui, cet ordre est en décadence, n'est-ce pas, très avancé. Ce qui fait que la plupart des résolutions que l'ONU prend ne se réalisent pas, s'exécutent pas. Et quand vous prenez l'Israël, vous allez voir que sur 100% des résolutions qui ont été prises par l'ONU, ces résolutions ne sont pas exécutées. De la même manière que toutes les résolutions qu'on prend sur la RDC et tout ça, ce sont des résolutions qui ont un écho qui ne portent pas. Et c'est justement le cas aussi. C'est pourquoi je suis en train de dire que toutes les résolutions, tous les rapports que l'ONU est en train de faire sont destinés au Conseil de sécurité. Ça veut dire que le Conseil de sécurité est un instrument d'appréciation de terrain. Ce sont ces rapports. Alors, en réalité, ces rapports sont destinés au Conseil de sécurité. Et c'est le Conseil de sécurité qui n'a plus de doute à faire pour pouvoir prendre des résolutions. Donc, il ne revient plus à la République démocratique du Congo aujourd'hui d'aller convaincre qui que ce soit. Mais c'est plutôt le Conseil de sécurité qui a institué une commission n'est-ce pas, de l'ONU, qui a fait le rapport et qui lui a dit que voilà, effectivement, il est établi que le Rwanda est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Ce n'est pas le premier rapport, les autres l'ont dit. Je crois que c'est tard. Au Conseil de sécurité aujourd'hui, doivent prendre des sanctions sans que la République démocratique du Congo fasse une autre diplomatie pour convaincre ses membres du Conseil de sécurité.
Mais non. La question, c'est pourquoi on ne sanctionne pas ces pays, justement. Plusieurs rapports des experts du groupe d'experts de l'ONU qui impliquent le Rwanda et même l'Ouganda dans la déstabilisation dans la partie est de la RDC.
Pourquoi l'ordre mondial lui-même, n'est-ce pas, qui est chargé d'instaurer la paix dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi cet ordre mondial est en décadence? Simplement parce qu'elle a été instrumentalisée par certaines puissances comme étant le bras de ces puissances. Ok? C'est justement la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'agression de la République démocratique du Congo n'est pas une simple agression parce qu'elle a des racines longues. Voyez-vous? Ce sont ces bras qu'on appelle les multinationales aujourd'hui, qui constituent la matrice de l'économie mondiale et américaine en particulier, qui sont à la base, n'est-ce pas, de cette guerre. Ce qui fait que, comme la puissance internationale qui sont les États-Unis aujourd'hui, c'est d'eux que proviennent toutes ces entreprises qui exploitent les minéraux. Voilà pourquoi il y a une résistance sur la prise des décisions, sur la prise des sanctions par la République démocratique du Congo. Donc c'est pourquoi j'ai dit c'est une instrumentalisation de toutes ces des grandes puissances, n'est-ce pas, qui contrôlent aujourd'hui l'ONU, qui fait en sorte qu'il n'y ait pas des sanctions pour des cas avérés, voyez-vous. Donc la guerre à l'Est, c'est pas une simple guerre du Rwanda contre la République démocratique du Congo, c'est la guerre des multinationales contre la République démocratique, qui pille la République démocratique du Congo pour l'intérêt des puissances, voyez-vous. Et cela, comme les puissances en question, ce sont ceux-là qui contrôlent, n'est-ce pas, l'ONU, voilà pourquoi il y a en train les pas pour pouvoir prendre les sanctions qu'il faut à l'endroit du Rwanda. Donc, ce que nous sommes en train de comprendre ici, c'est que je considère que la République démocratique du Congo est arrivée au bout du rouleau diplomatique. C'est-à-dire que le monde entier, qui a douté, hésité, pour affirmer ce que le Congo a déclaré, que le Rwanda soutient le 1-23, et plus tard, c'est le Rwanda qui attaque la République démocratique du Congo, aujourd'hui c'est connu de tout le monde, de tous les acteurs majeurs de la scène politique internationale. Voyez-vous ? Donc, nous sommes arrivés au bout d'une étape très importante de la diplomatie. Je crois que maintenant, la République démocratique du Congo doit déclencher le plan B. Parce qu'on ne peut pas faire une diplomatie sans avoir un plan B. Voyez-vous?
Et ça, c'est quoi ce plan B?
C'est le plan A. Et le plan B aujourd'hui, c'est la République qui doit le déclencher. Je voudrais dire ceci. Je peux ne pas connaître le plan B. Mais pour moi, le plan B, c'est la guerre ouverte, la guerre brute. Parce que la guerre diplomatique, c'est une guerre propre. C'est une guerre propre. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, on doit déclencher ce qu'on appelle le plan B. Et le plan B, pour moi, c'est la guerre brute. C'est la guerre qu'ils ont choisi. Et même la communauté internationale ne saura pas un jour sanctionner la République démocratique pour pouvoir attaquer le Rwanda.
Parce qu'on n'est pas déjà en guerre contre le Rwanda avec tout.
De droit, de droit.
Tous ces affrontements dans la partie Est.
De droit, on n'est pas en guerre. Mais politiquement, de fait, on est en guerre. Voyez-vous? Effectivement, c'est ce que les gens attendent, que la République démocratique déclare la guerre. Non. Le président de la République, il est politique. Voyez-vous? Un politique, il fait la guerre. Et puis, demain, demande certains instants, il vous dira que j'ai jamais déclaré la guerre. Mais entre-temps, il fait la guerre. Donc, politiquement parlant, nous sommes en guerre. Mais de droit, le président de la République n'a jamais déclaré la guerre. Voyez-vous? C'est un peu ça. Donc, cette ambiguïté-là, c'est ce qui fait un peu la beauté de la politique à un certain moment, où on peut s'évader à gauche, à droite, chaque fois dans des circonstances particulières. Donc, je voudrais dire qu'on est en guerre, politiquement, mais de droit, on n'est pas en guerre parce que le président n'a jamais déclaré la guerre. Donc, ce que je veux dire, c'est que, aujourd'hui, il est arrivé un moment. Le temps est mûr aujourd'hui pour que la République démocratique du Congo déclenche le plan B. Et il n'y a pas une autre mesure. Il n'y a pas une autre mesure. Pourquoi? Parce que le Rwanda, ils ont négocié jusqu'au bout, juste arrivé au moment de signer l'accord. Non, ils évoquent un autre dossier. Donc il faut commencer par considérer ce dossier, avancer avec ce dossier, et ça prendra suffisamment de temps. Et ça, c'est une diplomatie d'usure.
Alors, dans ce rapport, on ne pointe pas du doigt seulement le Rwanda, la RDC aussi est pointée du doigt avec son soutien, entre parenthèses, au FDLR, et FDLR, voilà, on dit qu'ils combattent aux côtés des FRDC. Voilà, le gouvernement congolais a promis, voilà, à, je vais lire hein, ce qui est écrit dans le communiqué. Le gouvernement de la RDC se fait le devoir d'examiner scrupuleusement les allégations soulevées dans le rapport concernant certaines pratiques des FRDC pour identifier et corriger toute lacune éventuelle dans un souci de transparence, d'amélioration continue pour le respect des normes internationales. Est-ce que ce n'est pas à cause de cela aussi qu'on n'arrive pas à sanctionner le Rwanda?
Non. Non. Attention, madame. On ne peut pas ne pas sanctionner le Rwanda, mais au mieux, il fallait sanctionner les deux. Au mieux, il faut sanctionner les deux. On ne le fait pas parce que le Rwanda ne peut pas être sanctionné par eux. C'est une poule aux yeux d'or. On ne peut pas sanctionner le Rwanda. Au mieux, on pouvait sanctionner les deux. On sanctionne la République démocratique du Congo et on sanctionne le Rwanda. Pourquoi ils ne le font pas? En plus, toute la communauté internationale sait pertinemment bien que l'FDLR aujourd'hui, c'est resté l'ombre de lui-même. Ça fait plus de 30 ans que ces gens sont venus ici, à 40 ans, à 30 ans, 45 ans. En réalité, en fait, il n'y a plus d'FDLR. Si il y a les jeunes gens ou les enfants ou les jeunes gens qui s'aventurient de s'appeler FDLR et tout ça, ainsi de suite, c'est quelque chose que la République peut corriger en un peu de temps. C'est un peu de temps. Ce sont les groupes militaires, tout simplement, qui s'organisent pour essayer d'exploiter les minerais, ou essayer de déranger les gens. Mais en réalité, en fait, l'FDLR aujourd'hui, quel âge aurait-il? Tu crois que cette question a été posée? Quel âge aurait-il? Ils sont arrivés à 40 ans ici. Ça fait 30 ans, ça fait 70 ans. Vous voyez un papa de 70 ans aller faire la guerre en brousse pour rentrer chez lui? Non. Et pourquoi eux? Pourquoi eux aussi, on ne demande pas au Rwanda de négocier avec le FDLR? Nous sommes dans la même situation. Pourquoi on ne demande pas au Rwanda de négocier avec le FDLR, par exemple? Donc nous sommes en train de dire tout simplement que la raison n'est pas là. La raison est ailleurs. C'est lui de pillage et d'exploitation. Madame, je voudrais vous dire tout de suite qu'aujourd'hui, au-delà de l'arme nucléaire, ce sont les minerais stratégiques qui vont faire la puissance des nations demain. Et pour ça, il est difficile de dire aux États-Unis qui perdent leur influence dans le monde d'arrêter tout de suite. Donc il faut encore, bien entendu, prendre d'autres dimensions de la diplomatie, donner d'autres garanties au niveau de la diplomatie pour pouvoir arrêter cette guerre. Et je vous dis franchement que cette guerre, il suffit tout simplement que les États-Unis disent que dans une semaine la guerre se termine, la guerre prend fin. Et nous le savons.
Professeur Dadi Saleh, avant de réagir, hein, on va écouter d'abord cet auditeur qui nous appelle de Kisangani. On me dit qu'il n'est pas en ligne, un petit souci des lignes téléphoniques. Alors, vous allez réagir hein, à la partie qui concerne la RDC, soutien de la RDC ou la collaboration des forces armées ou des FRDC avec les FDLR.
Vous savez, j'aimerais rebondir sur une chose. Je viens de le dire et vous venez de poser la question d'une façon indirecte. Nous sommes en guerre, s'il vous plaît. Il ne faut pas utiliser 1000 mots. C'est ça que c'est l'intelligence, entre guillemets, ce qui s'appelle l'intelligence, on tournoie autour de n'importe quoi. Nous sommes en guerre, un point entré. Le village est attaqué, ça va? Ça n'a rien à voir avec la constitution, ni un article, ni une diplomatie quelconque. Le village est en train de brûler, on attaque les villages. Je suis un panafricaniste, on ne se disait pas quelle est la forme de la guerre, etc. On a plus de 10 millions de Congolais qui ont été massacrés. Génocide. C'est un constat. Et nous sommes en guerre là et on a les Oisalens de la réserve armée de la défense qui est en train de se battre matin, midi, soir avec le FARDC. Tout le monde le sait. Et ce n'est pas la guerre ça. La guerre c'est une diplomatie naïve, je vous ai dit. Parce qu'effectivement certaines personnes ne comprennent pas le fait. La déclaration de guerre avec l'article 86 implique que le budget doit changer. Implique toutes les réactions des autorités. Implique beaucoup de choses. Mais on ne peut pas le faire maintenant parce qu'effectivement on n'est pas en guerre. Et pourtant, on est en guerre. Donc, c'est ce que j'appelle diplomatie naïve. La naïveté ne profite qu'à qui? Eh bien, ça ne profite pas aux Congolais qui continuent à mourir. Ce qui fait que quand on me parle des FDLR, nous le savons tous qu'il s'agit de faux fuyants. Mon co-débatteur, M. Joseph, vient de l'expliquer avec brio. Il s'agit de faux fuyants. Mais effectivement, le voleur, avant d'entrer, il se cherche de bonnes raisons pour venir voler. Mais nous savons qu'un voleur vient voler, piller, il ne vient pas construire. Les Rwanda, l'Ouganda, les néocolonialistes ne viennent jamais construire en République démocratique du Congo. Je l'ai dit, ce ne sont pas des patriotes congolais. Nous, on a besoin des patriotes congolais. Et vous avez bien compris que même quand on parle de Oisalendo, il y a toujours une catégorie au niveau des Nations Unies qui essaie de vilipender ces mots-là. Et pourtant, c'est clair, ça s'appelle patriote. Donc, vous voulez pas que les Congolais soient des patriotes. Mais c'est pas possible. Non, moi, je suis Mouzalène. Et vous allez dire, hey, non, il ne faut pas dire ça. Pourquoi? Je suis Mouzalène, je suis patriote. Un point, un trait. Et on aimerait que tout le monde puisse devenir patriote et se battre pour sa nation. Vous vous souviendrez que quand il s'agissait de Vietnam, tous les Américains étaient pratiquement dans l'obligation d'aller se battre. Donc, je pense que les FDLR, cette question-là, faut fouiller. Ça va? Mais même si c'était vrai, je vais être très cru. Je pense que certaines personnes vont un peu me détester. Mais je vais utiliser des mots propres. La République démocratique du Congo a le droit de se défendre avec tout ce qu'elle veut. Je le précise et lisez bien tous les textes des Nations Unies. Tout ce que la République démocratique du Congo peut avoir comme défense, ça va? Nous pouvons les utiliser.
Mais utiliser les Wazalis, les FDLR.
Je le précise, oui. Je le précise, oui. J'ai dit que ça va choquer. Je vous explique pourquoi. En relation internationale, comme quelqu'un venait de le dire là, l'ennemi de mon ami, etc., il peut les utiliser. C'est-à-dire comme exactement l'Ouganda avait utilisé la partie du Rwanda. Qu'est-ce qui s'était passé? Qui s'était plaint? Quand les Américains, et quand aujourd'hui, ça va, en Ukraine, certaines personnes utilisent le mercenaire, quelle que soit leur couleur, qui en parle? La République démocratique, je dis, certaines personnes ne vont pas me comprendre, parce qu'ils sont, un peu, il y a une mauvaise éducation. La maison est en train de brûler, vous me dites que quelqu'un qui veut vouloir que je puisse éteindre ma maison, c'est lui la personne mauvaise.
Mais justement, ça sera une occasion, vous donnerez l'occasion au Rwanda de dire, voilà, on a accusé la RDC d'héberger les FDLR, voilà, qui collaborent avec ces FDLR pour déstabiliser les institutions.
Je suis désolé, mauvaise, encore une fois, compréhension. La faiblesse de du leadership congolais, on ne comprend rien. Ça n'a rien à voir avec les FDLR. Que les FDLR soient là ou pas, les Rwandais aient décidé à balkaniser la République démocratique du Congo. Les néocolonialistes, que les FDLR soient là ou pas, les néocolonialistes sont décidés à balkaniser, à piller les ressources. Et ce n'est pas vous informer. Nous le disons depuis combien d'années? Il y a des gens qui sont à Rutshuru d'être installés. D'autres pays en République démocratique du Congo. Le président vient de les confirmer. Je suis à la radio quand même au Capi, n'est-ce pas? Donc je dis avec vérité. Le président vient à peine de confirmer, ça fait plus de 10 ans, nous le disons. Où est-ce que nous sommes là? Les FDLR, c'est quoi? Il n'y a pas de fausses raisons. Le Rwanda va utiliser toutes les mauvaises raisons, même si vous êtes chevelu, ça va. Vous avez des cheveux comme le ministre d'État de la Justice, ça va. Ils vont dire, allons, nous attaquons à cause du ministre d'État de la Justice. Diplomatie naïve. République démocratique du Congo, ce ne sont pas les FDLR le problème. Donc, madame, quels que soient les FDLR, même si nous utilisons les FDLR, qu'on les utilise, qu'on ne les utilise pas, ils trouveront des bonnes ou mauvaises raisons. Les FDLR, pour l'instant, entre guillemets, là je parle des gens qui avaient fui, ça va. Je vous ai dit, je suis cru, parce qu'en fin de compte, ça dépasse le borne. Nous sommes dans l'obligation d'utiliser toutes les forces que nous pouvons utiliser, et ce n'est pas nous qui avons amené les FDLR. Vous avez compris? C'est les Nations Unies.
Alors, mais concernant les sanctions, Dadi Salim...
La seule personne qui doit être sanctionnée, ça va, ça s'appelle celui qui a violé les territoires de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo n'a pas violé les territoires du Rwanda, ou ça? Donc, c'est-à-dire, effectivement, si vous voulez parler des sanctions, ça va, ça s'appelle encore faux fuyant. Les 10 millions de Congolais qui sont décédés. La République démocratique du Congo essaie de se défendre.
Mais pourquoi moi, c'est le gouvernement congolais qui demande à ce que qu'on puisse sanctionner le Rwanda?
Je répète.
Appelle à des sanctions claires.
Je répète.
Contre le Rwanda. Très brièvement.
Brièvement. Mon co-débatteur vient de le dire. Il s'agit des Nations Unies. Ils ont leur ligne de conduite. Ça, c'est les Nations Unies avec les Américains. Mais nous ne dépendons pas 100% des Nations Unies. Je vous informe encore
nous
une fois.
Membres
je vous
Nations
informe,
Unies.
Madame. J'informe à tout le monde que la République démocratique du Congo, c'est un pays indépendant. En tant que pays indépendant, nous sommes dans l'obligation de défendre notre territoire. Et si vous prenez Bita Keïta, ça va, l'a dit à plusieurs fois.
On
ce
a
n'est
signé
pas,
des pactes, des
je vous le répète, madame, ce n'est
Nations
pas
Unies.
La MONUSCO qui a l'obligation de défendre les territoires congolais. Ça, c'est Bintou Keïta. C'est-à-dire, nous sommes membres, oui, mais il y a des restrictions. Seule la République démocratique du Congo, avec le FARDC, a l'obligation de défendre la République démocratique du Congo. Ce n'est pas les Nations Unies. C'est écrit où? Bintou Keïta joue son rôle. C'est-à-dire, effectivement, essayer d'amener la paix, n'est-ce pas, vous comprenez? Essayer de faire en sorte que les gens s'entendent, mais ce n'est pas sa mission. Et vous savez très bien qu'on a amené des brigades spécialisées juste pour essayer. Mais la mission des Nations Unies n'est pas de jouer le rôle de FARDC. Donc, nous sommes membres des Nations Unies et il n'est pas interdit dans la charte des Nations Unies que les FARDC, ça va, que par exemple l'article 63 de la Constitution soit appliqué. C'est interdit où, madame? Nulle part.
Frédéric Amani, parlant de l'efficacité des sanctions, est-ce qu'elles suffisent pour que ces groupes armés se rétractent?
Oui, les sanctions par rapport au soutien du M23, notamment vis-à-vis du Rwanda et de l'Ouganda, je crois que ces sanctions peuvent faire quelque chose parce que, vous le savez, le Rwanda et l'Ouganda sont parmi les États qui vivent grâce au soutien économique de leurs partenaires. Alors, voilà pourquoi je voudrais, si vous le permettez, préciser une chose. C'est pas que je ne refuse pas la guerre. La RDC peut faire la guerre comme la Constitution le lui autorise. Mais moi, j'insiste sur le préalable. Évitons, excusez-moi, je l'ai dit, évitons de tomber dans le populisme. La RDC est capable de faire la guerre vis-à-vis du Rwanda ou de l'Ouganda. Mais il y a des préalables qu'on doit remplir au niveau interne pour que cela ne puisse pas se retourner contre nous. À quoi bon de faire la guerre pour faire plaisir peut-être à une frange de la population, mais dont on ne sera pas à mesure de gagner dans peu de temps? Et surtout que n'oublions pas que la guerre a des conséquences collatérales. On peut, la guerre en Ukraine en est un exemple. On a commencé, on ne pensait pas qu'on devrait faire 2 ans. Alors, je suis pour la guerre ou la diplomatie pourvu que l'Est de la RDC soit en paix et que la RDC en général soit pacifiée. Je suis pour tous ces moyens. Et vous le savez, en diplomatie, on peut se servir des moyens politiques, des moyens militaires, des moyens diplomatiques. Mais faudrait-il, j'insiste là bien, faudrait-il savoir bien les manipuler? On peut utiliser les moyens diplomatiques et aboutir à des résultats escomptés, tout comme on peut utiliser les moyens militaires et aboutir à des moyens et à des résultats escomptés. Mais en ce 21e siècle, rares sont des conflits qui sont terminés par la voie militaire. C'est par des voies politiques, par des voies diplomatiques. Mais il faut que les acteurs soient en mesure de bien les utiliser pour que ça apporte des résultats. Alors, les sanctions vis-à-vis du Rwanda et vis-à-vis de l'Ouganda peuvent permettre à ce que la paix revienne parce que ces États vivent des soutiens qui viennent de leurs partenaires. Au-delà de ces sanctions, je pense que aujourd'hui, il y a lieu d'insister sur le fait que la RDC doit redéfinir ses partenariats stratégiques avec ses alliés. Parce que lorsque vous avez des alliés ou des partenaires qui, d'une manière ou d'une autre, n'apportent pas grand-chose, c'est aussi ça la raison de la coopération. On unit les efforts pour des causes communes, pour des défis communs. Eh bien, puisque la guerre en RDC intéresse directement ou indirectement les alliés de la RDC, il y a la question d'investissement. Il est difficile que les investisseurs viennent en RDC alors que la guerre est là. Or, la RDC peut se servir de cette question militaire ou de cette question sécuritaire pour brandir vis-à-vis de ses partenaires qui veulent venir investir, de s'activer. On a parlé de diplomatie des couloirs, de diplomatie des contournements. Ça entre en ligne de compte pour que la paix et la sécurité reviennent. Mais j'insiste sur le fait que tous ces moyens doivent être bien utilisés pour des résultats escomptés et aussi la dynamique interne a aussi un grand rôle à jouer pour la question qui se passe à l'Est. Lorsque je parle de la dynamique interne, je parle de l'unité, de la cohésion, n'est-ce pas, aussi des efforts de personnalités qui ont rang, ce qu'on appelle en relation internationale, des personnalités qui ont rang d'acteurs, qui peuvent aussi appuyer les efforts du gouvernement congolais pour faire entendre la voix congolaise dans les instances internationales afin que la paix et la sécurité reviennent à l'est de la RDC. Plus de 2 décennies, je crois que et la communauté internationale et les organisations auxquelles la RDC appartient devraient se poser autant de questions, bien que la réalité des relations internationales reste la réalité des intérêts. Il y a des multinationales, comme le prof Salé l'a dit, il y a des multinationales et d'autres États qui profitent de cette situation pour tirer profit, mais il faut que la RDC redéfinisse cette logique en apportant du tonus dans ses relations pour que, n'est-ce pas, la balle soit dans son camp.
Alors, vous êtes très très nombreux, auditeurs de Radio Capi, à réagir au thème de ce soir. Yves Laurent Mwamba, qui nous suit depuis Kinshasa, la paix et la sécurité revient à l'État conformément à ses missions régaliennes. Ne nous contentons pas de ce rapport, assumons-nous et défendons notre patrie à vie ou à mort. La paix ne se négocie pas ni ne se soustrait pas. En ce moment actuel, engageons l'usage de la force. Le seul dénominateur qui reste à préserver n'est que le Congo, assumant notre responsabilité politique, civile, ainsi de suite. Bénisse Eyenga Massinga, depuis Béni, au nord Kivu, se demande si le rapport des experts de l'ONU doit... Est-ce que le rapport des experts de l'ONU doit maintenant réveiller la conscience du gouvernement et des Congolais sur ce qui se passe dans la partie est de la RDC? En outre, quel est l'impact direct de ce rapport face au drame meurtrier de l'Est? J'appelle le gouvernement congolais à rester constant face à ses engagements et à protéger et défendre l'intégrité territoriale. Plusieurs rapports des experts de l'ONU sur la situation de l'Est sont restés sans suite. Combien de fois le gouvernement congolais a appelé à des sanctions contre le Rwanda? A-t-il eu gain de cause? Méfiez-vous de ce rapport. Voilà. C'est Bénisse Massinga qui nous a écrit depuis Béni, au nord Kivu. On est presque à la fin de notre émission. Joseph Kongolo, je vais vous donner la parole pour conclure.
Je voudrais dire que la guerre, sauf in extremis, n'est jamais un moyen recommandable pour résoudre un problème social. Pourquoi? Parce que les tissus sociaux sont très fragiles et quand vous les recommandez, vous fragilisez la société. Regardez, la guerre se passe en République démocratique du Congo et pas au Rwanda. Voyez-vous? Donc, pour toutes ces considérations, nous avons le droit de réfléchir en profondeur pour faire en sorte que la guerre soit la décision finale, in extremis. Là, c'est possible. Deuxièmement, il faut une mobilisation interne. L'unité, on ne l'aura jamais dans un pays démocratique. On n'a pas besoin d'une unité. On a besoin d'une mobilisation autour des objectifs précis. Parce que chacun a une vision. Il est sociodémocrate, l'autre est libéral. Il veut atteindre le même objectif, le développement du Congo, mais par d'autres voies que d'autres. Ça peut créer certaines divergences politiques. Mais nous avons besoin d'une mobilisation. Je crois que même le ministre des médias, il y a une autre manière de communiquer en temps de guerre sur les médias publics. Il y a une autre manière de communiquer en temps de guerre. C'est vrai, la rédévabilité est bonne, mais il y a une autre. Il faut qu'il y ait une permanence, une conscience collective que nous sommes en guerre, une mobilisation permanente. Et il y a autre chose à faire par rapport à ce qu'il fait. C'est déjà bon. Mais il y a autre chose qu'il doit faire pour que un étranger qui arrive aujourd'hui, un villageois qui écoute la RTNC, il doit comprendre que ce pays est en guerre. Et cette communication-là n'existe pas parce que cette communication constitue pratiquement le fondement de ce qu'on appelle la mobilisation autour de la guerre. Je voudrais répondre encore au prof. Mm-hmm. La guerre dans des pays civilisés, elle est codifiée. Voyez-vous, elle est codifiée. Je comprends l'agacement, la longueur de la guerre et tout ça, mais la guerre, elle est codifiée. Voyez-vous, elle est codifiée dans des pays civilisés. Il y a un code là-dessus. Donc, nous devons, en tant que pays civilisé aussi, aller en respectant certaines normes, n'est-ce pas, internationales, et faire en sorte que gagner le terrain dans les normes de la, dans les normes, n'est-ce pas, qui codifient la guerre. Et ça, c'est très important. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. En plus de ça, je crois que monsieur le prof n'oublie pas que nous n'avions pas d'armée. L'armée est en formation, en construction, et au même moment, on fait la guerre. Et ces deux tâches concomitantes pendant la guerre, ça n'a jamais été une mince affaire. Donc il faut qu'on ait simple en esprit que nous sommes en train de reconstruire l'armée et en même temps nous faisons la guerre. Donc on n'a pas, il faut prendre tous ces éléments et construire une politique, n'est-ce pas, qui soit minimaliste. Je crois, voilà à peu près ce que je voulais dire à propos de. Comme conclusion dans ce que j'avais à dire.
Merci Joseph Kongolo. Franck Bilali depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Il est grand temps que notre pays s'assume comme un État. Aucun pays ne viendra militer pour la paix durable en RDC si ce n'est par notre propre effort. Professeur, votre conclusion. Soyez conscients.
Oui, je demande au gouvernement congolais de ne plus pleurnicher. Les Nations Unies jouent leur rôle, bien ou mauvais. Mais pour l'instant, il faudra un budget, une loi financière de guerre 2025. Ce qui fait que je demande au président de la République de convoquer ça rapidement. Je demande qu'il y ait une économie de guerre qu'on a demandé depuis très longtemps. Je demande effectivement qu'il y ait des investissements de guerre et une culture d'information de guerre. Nous sommes en guerre. Ceux qui pensent qu'on n'est pas en guerre, quand on te tape dessus, ça ne veut pas dire que tu as tout le temps pour aller encore te préparer, que tu vas faire des entraînements. On est en train de nous taper dessus. Il n'y a pas le temps pour aller se préparer.
Merci.
Learning by doing, on se préparera
Merci,
en se battant.
Professeur Dadi Saleh, Frédéric Amali.
En conclusion, il est temps que l'État devienne davantage un État capacitaire en assumant bien entendu ses missions régaliennes. Mais un autre élément, il est temps que l'État congolais, face à ce qui se passe à l'Est, n'est-ce pas, puisse redéfinir ses relations stratégiques avec ses alliés pour avoir un soutien tous azimuts afin d'être maître de son destin sécuritaire. Et enfin, je parle de la cohésion ou de la mobilisation collective au niveau interne afin aussi d'apporter un soutien moral ou psychologique face aux vaillants, n'est-ce pas, soldats qui mènent des combats au champ de bataille. Enfin, il est temps que la communauté internationale cesse avec la politique de deux poids, deux mesures. Face à la RDC, il y a un silence, mais face à l'Ukraine, il y a un engagement. Et il est temps, enfin, que plus de deux décennies, on a besoin de la paix et de la sécurité à l'est de la RDC, et cela passe par une réorganisation interne pour que la paix et la sécurité reviennent.
Merci Frédéric Amani, merci à Sani Ngoï qui nous suit depuis Kalemi dans la province du Tanganyika. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Jonathan Falani, Clément Chimanga, Hervé Vauquia, Dona Madimba Guimaté. Merci aussi à notre technicien du soir, Pierre Diassinois, présentation et coordination, Kéline Kouté. Je vous retrouve demain à la même heure pour un nouveau numéro. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.